Le 31 août 2019, Emmanuel Wallerstein disparaissait. À la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, le 26 novembre dernier, ses amis et collègues ont souhaité lui rendre un hommage. Voici les témoignages de Michel Wieworka, Jean-Luc Racine, Maurice Aymard, Robert Boyer et Yves-David Hugo.
On a été très émus quand on a appris la disparition d'Emmanuel Wallerstein, que... On l'avait vu effectivement diminuer lors de ses derniers séjours à Paris, un peu fatigué. On avait vu aussi passer, comme je pense la plupart d'entre vous ici, on avait vu passer son superbe texte annonçant qu'il arrêtait d'écrire sur son blog. Donc on sentait bien que la situation n'était pas réjouissante, mais ça a été un choc. Et ce qui nous a frappé tous, et tous ceux qui ont suivi un tout petit peu ça, c'est la profondeur, je dirais, de l'émotion. Ça ne c'était pas simplement une disparition comme ça. Je crois que pour beaucoup, ça a été un moment où on a pris conscience que ça avait été vraiment une figure tout à fait décisive de la vie politique, intellectuelle, j'allais dire épistémologique, du siècle, enfin de près d'un siècle, que c'était vraiment un très très grand monsieur, très rigoureux comme savant, très généreux comme militant, et donc voilà, beaucoup d'émotions. Alors Jean-Luc Racine, qui va maintenant prendre la parole, va nous dire comment il a organisé cette rencontre. Je dois personnellement partir au plus tard à 18h20, c'est un peu compliqué, donc je partirai sur la pointe des pieds si ça n'est pas terminé. Je sais que Maurice Aymard a également des obligations, même un peu plus tôt que moi, c'est comme ça. Nous ferons un événement plus spectaculaire, dans peut-être 8 mois ou un an, mais là nous avons vraiment voulu, non pas le cercle le plus proche, c'est pas ça, mais enfin nous avons voulu vraiment marquer le coup à chaud, assez rapidement, parce qu'on était très émus. Et comme vous le voyez dans le texte que Jean-Luc va vous présenter, tout de suite, tout le monde avait plein de choses à dire. Voilà. Jean-Luc, je n'en dis pas davantage, parce que c'est pas à moi d'en parler beaucoup plus, sinon que c'était un grand ami de la Fondation, un grand ami institutionnel même de la Fondation, puisqu'il présidait l'association des amis de la Fondation. Et donc c'est un peu à ce titre que nous sommes réunis aujourd'hui.
Voilà, merci Michel. Donc tu l'as dit, c'est effectivement au titre de l'association des amis que cette réunion, on va dire en petit comité, est organisée, puisque la Fondation, la maison elle-même, organisera un colloque beaucoup plus lourd l'année prochaine, mais il m'a semblé qu'il était bon que l'association réagisse dans des délais plus courts, puisque Emmanuel Wallerstein avait été, Maurice nous dira ça, un compagnon de route et plus que cela de la MSH depuis fort longtemps, mais il était aussi, depuis la création de l'association des amis de la MSH en 2014, son président. Donc c'est à ce titre que je suis là, pas comme chercheur spécialiste des questions qui étaient les siennes, encore que parfois ça peut se recouper, mais en tant que secrétaire de cette association qu'il a présidée avec bienveillance. Et pour nous, évidemment, c'était important d'avoir quelqu'un de cette stature à notre tête. Donc, il y a deux choses à souligner. D'un côté, il y aura ce dialogue intellectuel, et je remercie Robert Boyer d'avoir accepté de se joindre à nous, le « nous » étant la poignée de gens du cercle de la maison qui avaient, dès le lendemain du décès, puisqu'on a été prévenu très vite par Cathy Wallerstein, sa fille, donc la première étape a été quelques textes qui ont été mis en ligne sur le site de la maison et sur la page de l'association, des textes de Michel Wieworka, de Maurice Aymard, de Craig Calhoun, d'Alain Touraine et de moi-même. j'ai pensé qu'il serait bon d'ajouter à l'hommage d'aujourd'hui la publication de cette brochure qui reprend ces textes, qui en ajoute un de Carlos Antonio Aguirre Rojas de Mexico, parce qu'il m'avait semblé, par rapport à ce que fut le parcours d'Emmanuel Wallerstein, qu'il était bon qu'il y ait un texte en espagnol d'un latino-américain pour cerner ce qu'était son horizon. Bon, on aurait pu ajouter un texte d'un chercheur africain, parce qu'on oublie qu'il avait commencé sa carrière en tant que chercheur sur l'Afrique. Mais ça, ça sera peut-être pour le colloque de l'année prochaine. Et puis, j'ai rajouté trois textes assez brefs, mais très significatifs, d'Emmanuel Wallerstein, donc tous les trois en anglais. L'un, le premier, c'est quelque chose que j'avais gardé dans mes archives de longue date, puisque c'est le papier qu'il avait publié dans Libération quand, en 2008, les princes qui nous gouvernent avaient voulu relocaliser la MSH quelque part entre le périphérique, la voie ferrée et les entrepôts de la Porte de la Chapelle. Et en relisant ce texte, que vous trouverez ici, c'est vraiment une défense et illustration de la maison. Et ça m'a paru opportun de le republier. Et puis, j'ai choisi un texte d'Emmanuel, les deux autres donc sont en anglais, le second de ce petit recueil raconte ce qu'a été son parcours intellectuel et ce qui justifie le titre Une quête intellectuelle et politique. C'est une traduction d'une phrase qui est mise en exergue dans les trois langues, en anglais, en français, en espagnol. Et puis enfin, le texte qu'évoquait Maurice il y a un instant, This is the end, this is the beginning, qui est donc le dernier des blogs, encore qu'il disait que ce n'est pas un blog, parce que les blogs, ça peut évoluer, et moi, mes textes, une fois qu'ils sont faits, on n'y retouche plus. Donc, le non-blog, son dernier, le 500e, vous le retrouverez aussi ici. Donc, voilà. Sur le fond des choses, vous pouvez vous étonner de la sexe ratio qui est à cette table. Heureusement, c'est un peu plus équilibré dans la salle. Nous devions avoir Niloufer Gole, qui, pour des raisons intellectuelles-politiques, a été, je dirais pas contrainte, mais devait impérieusement être en Turquie cette semaine, donc elle s'est excusée. Mais sans le moins du monde vouloir la remplacer, je me permettrai, après les interventions de Maurice et de Robert, de présenter à ma façon le texte qu'elle a publié dans La Gauche Globale, puisque ce texte, ce petit ouvrage publié dans la collection Intervention de la Maison, c'est le dernier de la plume d'Emmanuel Wallerstein, mais il associe de particulier que les trois conférences qu'il avait données à Paris sont l'objet d'un ensemble de commentaires, dont celui de Niloufer, et je me permettrai donc, pour votre bénéfice, si vous n'avez pas lu ce texte, d'en souligner quelques enjeux et peut-être d'aller un peu au-delà, mais ça, ce sera après nos experts. Maurice,
merci.
C'est à toi. Merci d'avoir évidemment accepté de prendre la parole dans ces circonstances, après avoir évidemment contribué aux premiers hommages.
On parlait de sexe ratio, je pense qu'il y a aussi un problème
d'âge.
De age ratio, et que donc ce sont les vieux autour de cette table qui sont conduits à parler, puisque notre âge a assuré un long contact avec Emmanuel Wallerstein, qui, ne l'oublions pas, pour ce que nous savions au moins jusqu'à aujourd'hui, a pris ses premiers contacts directement avec le 54 boulevard Raspail, école des études, puis maison des sciences de l'homme, en 1970-71, comme un contact attesté. Il y a eu aussi une histoire dont on parlera par ailleurs. Et je n'oublierai jamais mon dernier dîner avec lui et sa femme et sa fille à la fin de janvier 2018, où il était venu ici pour tourner la page, donner leur studio parisien à sa fille, déménager son bureau. Et nous savions qu'il ressentait.
Il n'a pas déménagé.
Ah oui,
je le partage.
Un déménagement n'est jamais terminé complètement. On laisse des traces. Enfin, c'était le but du séjour. Mais nous savions en le quittant qu'il ne reviendrait plus, qu'il n'avait plus au programme de revenir véritablement à Paris. C'était donc la fin d'une époque. On ne savait pas que sa fin personnelle aurait été intéressée aussi rapide. Je vais donc centrer mon intervention sur justement la première partie, cette histoire longue. Robert Boyer parlera d'autres aspects que moi. Qu'est-ce qui se construit dans les années 70 autour de, c'est le thème de titre de mon intervention dans la brochure que vous avez, de la rencontre entre deux hommes, Emmanuel Wallerstein et Fernand Braudel. Alors, là, vous connaissez la carrière de tout de même d'Emmanuel. Il a émergé comme africaniste, comme quelqu'un travaillant sur les conditions sociales et politiques de l'Afrique coloniale et sur la transition à l'indépendance. On en parlera après, il y a des textes plus anciens, mais tous ses premiers travaux jusqu'à la, tous ses premiers travaux jusqu'à la quarantaine porte sur l'Afrique, et c'est autour de 70 que officiellement, de façon ouverte, commence à circuler la première partie de ce que sera le premier volume du Modern World System, c'est-à-dire la partie 16e siècle. Et là, je vous invite à relire ce que Braudel en écrit très tôt quand on lui demande la division des humanités et des arts du Canada à Ottawa, le consulte pour savoir s'il faut accorder ou non à Emmanuel Wallerstein une année sabbatique pour terminer son livre. Et là, nous avons le premier témoignage bien daté, et Braudel est parfait dans son évaluation, puisqu'il répond le 24 mars 72 sur cette demande. Il sait qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites sur cette œuvre annoncée, et Braudel refuse de rentrer dans les détails. Il refuse de donner une réponse articulée en disant « ça c'est bien, ça c'est mal », etc., etc. Il se contente d'écrire. Il m'a semblé inutile de soumettre. Il explique qu'il a reçu et lu depuis la fin de mars 71, ça nous donne une bonne date, les différentes parties du premier volume du Modern World System en cours de rédaction, et qu'il lui avait semblé inutile, là je cite exactement, de soumettre des remarques et des critiques qui sont seulement de détails, et qui, plus encore, mettent en cause, sur tel ou tel point, une vision particulière des événements. Seul ici, l'ensemble de la démonstration est décisif. Il faut donc qu'Emmanuel Wallerstein aille, et de préférence seul, jusqu'au bout de sa propre pensée, sans s'attarder au conseil des lecteurs, des usagers et des spectateurs. Pas mal. Et il ajoute ensuite une pensée neuve dont l'avenir intellectuel est à ce point assuré à mes yeux que j'ai décidé d'en assumer la traduction en français dès sa parution en anglais. Voilà. Un peu plus loin, la conclusion. Le plus beau livre lu par moi, il n'est pas encore achevé, durant ces 10 ou 15 dernières années. Donc il y a bien eu un moment très tôt dans l'écriture de l'œuvre. Entre mars 71 et cette lettre de du début 72, il y a eu un moment où Brandel a fait un pari sur lui.
Ouais.
Et un pari dont je comprends mieux maintenant que si Brandel l'a fait, c'est que finalement il s'est trouvé un peu dans la situation dans laquelle il s'était trouvé lui-même vis-à-vis de Lucien Febvre. Pendant ces 5 années de captivité, nous préparons l'édition de la correspondance de captivité de Febvre et de Brandel. Pendant ces années, il y a la même différence d'âge entre Brandel et Wallerstein qu'entre Brandel et Lucien Febvre. Et Febvre nous a mis sur lui pendant. Il avait mis commencé, mais dès qu'il voit arriver les chapitres, il dit c'est une homme exceptionnelle. Seul désaccord entre eux à ce moment-là, c'est une petite parenthèse. Febvre lui écrit « Faites une thèse, il faut s'en débarrasser, c'est un chef-d'œuvre corporatif. » Et Brandel est bien décidé, qui va en faire 10 rédactions successives, est bien décidé à en faire un chef-d'œuvre. Non corporatif. C'est pour dire que derrière, il y a tout de même dans cette rencontre Brandel-Wallerstein, je pense, une dimension humaine forte. Que j'ai compris précisément à travers la lecture de cette correspondance de captivité. Alors, dans ces années-là, bien entendu, il va y avoir une période intermédiaire dans laquelle nous n'avons que des opérations, que des informations fragmentaires. Moi-même, je fais sa connaissance en 75-76, quand il est invité pour une année à faire la... a assuré le séminaire Brandel, il organise, j'étais une des personnes invitées, j'étais à Rome à l'époque, à parler dans un séminaire d'un exemple particulier des régions que j'ai suivies. Donc là, à partir de ce moment-là, il est dans le paysage, son livre, le premier volume, est paru en 1974 en anglais, et puis à partir de 1976-1977, vont se multiplier les invitations, les... temporaires, les colloques, et puis assez rapidement une forme d'invitation permanente permettant à Emmanuel de passer au minimum 3 ans par an. Ça va durer longtemps, puis il y a eu un moment où l'âge de la retraite aidant, et lui ne pouvant plus être nommé directeur d'études associées, il a fallu réduire un peu les temps, mais en fait, il a été certainement sur cette durée d'une quarantaine d'années. Un élément permanent dont le retour était annoncé et qui assurait à partir de Paris tout un ensemble d'activités qui ont été pour beaucoup dans l'image internationale de la Fondation et dans les dynamiques intellectuelles qui se sont créées autour de lui. Et c'est à ce titre maintenant, c'est à ce titre qu'il faut le voir maintenant. Alors, en amont, j'allais dire, la question, je n'ai qu'une partie de la réponse, mais par chance, notre collègue David Hugo en sait beaucoup plus que moi et pourra apporter des compléments d'information. On y voit un peu clair à partir de 70-71. On y voit un peu moins clair sur les voies d'accès. Alors, je dois à Jean Copin, qui ne pouvait pas être là ce soir, d'avoir l'information importante, c'est lui qui a traduit en français le premier texte, je crois, enfin publié en français en traduction d'Emmanuel, qui est très intéressant parce que il paraît en 1970-71 dans les cahiers internationaux de sociologie. Jean Copin, c'est un jeune chercheur ici, qui est au Centre d'études africaines depuis 1963. C'est au même moment où Emmanuel est en train de décrire le Modern World System, et c'est un article qui est purement africaniste. Purement africaniste, c'est-à-dire qui est sur... je l'ai sous les yeux, puisqu'il a été réédité à Chicoutimi dans cette bibliothèque... dans cette bibliothèque formidable, les cahiers internationaux de sociologie. L'organisation des sciences humaines et l'objectivité. Et en fait, le thème, c'est un article sur la, c'est un article sur la fuite des cerveaux. Sur, c'est-à-dire sur la nécessité pour les pays africains accédant à l'indépendance de garder leurs savants, de garder leurs intellectuels, au lieu de les voir attirés aux États-Unis, en Angleterre, en France ou ailleurs. Donc, très convaincant, mais pas du tout, rien à voir avec la pensée de Mondel, au moment où il écrit, il rentre dans une direction différente. Donc, on voit qu'il y a eu des médiations. Le texte avait été confié par Ballandier à Coppens. Ballandier et LR font une proposition de l'inviter, pour inviter Mabel pour plusieurs mois à Paris, qui n'aboutira pas sur le moment, mais on voit bien qu'il rentre dans l'univers du ce qui est le 54, où la maison vient de s'installer, et avec cette double protection double dimension africaniste dans la personne de Ballandier et l'intérêt personnel de Clément Seller, auquel il a été recommandé par divers canaux, mais elle a sa fonction auprès de Mondel, c'était d'avoir les informations. Et dès qu'il y avait quelqu'un d'important et prometteur qui apparaissait sur le marché, il avait toute une série de relais qui le lui signalaient. De cette partie antérieure, puisque David Hugo est là, je ne parlerai pas maintenant, mais je pense que son complément d'information, grâce à lui, grâce à ses recherches, notamment sur les papiers de Wallerstein à Binghamton, il y a tout un ensemble d'informations qui étaient, jusqu'il y a quelques mois, totalement inconnues. Et là, donc, on a cette arrivée à Paris et cette installation où il devient un invité régulier de la maison et quelqu'un qui organise à partir, qui n'est pas là en touriste, qui organise à partir de cette résidence parisienne, qui prend des initiatives et qui fait partie, qui devient l'un des animateurs des programmes de la maison. Deuxième élément, effectivement, l'histoire de la relation entre Mondel et Emmanuel est importante. Ce qui m'a semblé, je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque, parce qu'on le voit mieux avec le recul, que finalement, les deux hommes se rencontrent au moment où ils ont une œuvre en construction, en cours d'écriture. Pour Emmanuel, il s'agit du Modern World System. Pour Mondel, c'est l'édition finale, le texte final de civilisation matérielle, économique et capitaliste. Et ils se rencontrent, ils vont être amenés à se parler plus étroitement. Mondel a été séduit, on le voit bien par le jugement qu'il formule, a été séduit par le caractère construit, cohérent, à l'endroit au but de la démonstration de Wallerstein. Ça fait une idée forte. Qui le séduit parce que ça permet au livre d'avoir un impact sur le public, une idée, il faut qu'il aille jusqu'au bout. À un moment, Mondel, qui a publié le premier volume, Civilisation matérielle, en 67, et qui réécrit l'ensemble, apparaît essentiellement après 72, quand il quitte la présidence de l'école des hautes études, qu'il a davantage de temps. Il s'agit de construire son livre. Il va y avoir un événement important pour eux deux. C'est précisément la crise pétrolière des années 73-74, sur laquelle ils vont se rencontrer comme étant un événement majeur. Pour Emmanuel, c'est clairement la confirmation, c'est une crise du capitalisme, c'est-à-dire, comme il écrira par la suite, un système monde a une nette date de naissance, mais a aussi une fin. Et donc, on est à un tournant important. Mondel ne le suivra pas jusqu'au bout sur ce plan-là. Pour lui, le capitalisme a encore de beaux jours devant lui. Peut-être ne s'était-il pas trompé, on ne sait pas maintenant quoi en penser exactement. Parce qu'on ne parlait pas trop environnement à cette époque-là.
Si, ce sont 13, c'est des Roms, Windows.
Oui, mais c'était oui, mais
le premier signal précoce.
Oui, mais ce n'était pas, pas une préoccupation politique majeure. Comme ça le devient, c'est tout de même, ce sont davantage des avis d'experts qui essayent d'attirer l'attention de l'opinion. Et pour Model, le résultat de la rencontre va être de transformer son propre livre, qui était prévu sur un schéma binaire, le hors-marché, l'économie paysanne fonctionnant à court rayon d'action, et puis de l'autre, l'économie marchande. Et à un certain moment, je me dis, je l'entends, il va y avoir un troisième volume. Le troisième volume, c'était de faire sortir le capitalisme du marché. Horreur pour beaucoup de gens. Je me souviens de sa présentation au groupe d'études marxistes qui se réunissait à la Sorbonne le mardi après-midi. Donc il a été accusé de tous les péchés. Le capitalisme, ce n'est pas le marché. C'est le monopole, c'est l'oligopole, c'est au-dessus du marché. On a donc une construction à trois étages, ce que Bourdel préférait toujours, c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessous du marché, qui fonctionne sur la base de marchés locaux, qui sont les économies rurales majoritaires. Il y a le marché qui est quelque chose de transparent, parce que c'est surveillé, c'est contrôlé, c'est enregistré, on a des archives. Et puis au-dessus, il y a la formation, une dynamique différente, qui est celle d'un ensemble d'hommes, de sociétés et autres, qui sont au-dessus du marché, qui utilisent le marché quand ils en ont besoin, mais qui fonctionnent et raisonnent principalement en termes d'oligopole et de monopole, parce que c'est à ce niveau-là qu'on fait les profits réels, tandis que les profits du marché sont généralement limités par la concurrence. Et ça, je pense que, on ne veut pas dire qui a influencé à l'autre, c'est leur dialogue qui a produit ça, de la même façon que la lecture de Brodel avait convaincu Emmanuel que pour étudier son moderne world system, comme quelque chose d'original, qui n'avait pas de précédent, mais qui aura une fin, à ses yeux, la lecture de Brodel l'avait convaincu de la nécessité de la longue durée. Donc, avoir 5 siècles devant lui était quelque chose de fondamental. C'est pour ça que je crois qu'entre les deux, qui n'a pas été le cas entre Brodel et Fèvre, bien entendu, ils se sont rencontrés finalement à un moment où, sans le savoir, ils avaient besoin l'un de l'autre et où chacun avait quelque chose à apporter à l'autre. Wallenstein a valorisé l'image de Brodel et la réputation de Brodel sur le marché international et notamment sur le marché américain au moment où la traduction de la Méditerranée vient de sortir en 73-74. Avant la traduction étrangère, il y avait l'espagnole et l'italienne surtout, parce que l'espagnole qui était mexicaine avait très peu circulé. Et puis Wallenstein crée à Binghamton un centre Fernand Brodel inauguré au printemps 77 qui va avoir un rayonnement et où le nom aussi de Brodel va servir entre trois parties. Wallenstein a une adresse parisienne. C'est finalement le bon exemple d'une entreprise. Et c'est une Et même s'ils se situent finalement sur des perspectives différentes, ils disent leur désaccord, etc., etc., mais chacun les dit en respectant l'autre, en disant, aucun ne va dire que l'autre se trompe. Mais au total, ils travaillent sur des voies parallèles et un peu dans la même direction. C'est ça qui me paraît essentiel comme point de départ. Après, bien entendu, je ne veux pas dire que leur chemin se sépare. Brodel cherche à imposer aux historiens européens, sur lesquels il a le plus d'influence, la personnalité et l'œuvre de Wallenstein. Je peux dire que dans ce domaine-là, ça a été un échec très large, au moins en Europe occidentale. les historiens, la majorité des historiens, dont j'appartenais à cette petite minorité, ont en majorité refusé parce que c'était trop général. Puis c'était un sociologue, c'était pas un historien.
Personne n'est parti.
Je l'ai entendu dire tel quel au comité, le comité international des semaines de Plato, cette formule-là. Je ne dirais pas par qui, par des collègues français, un peu plus âgés que nous. Mais ça n'a pas pris, et parce qu'il arrivait aussi dans le domaine des, pour les historiens, au moment de l'avènement de la micro-histoire. Donc toute forme de généralisation, l'histoire globale va être redécouverte par les historiens qu'à la fin de la décennie 90. Et ce n'est pas par hasard que les annales publient le numéro 2001, le premier numéro, sous le titre « Retour à l'histoire globale ». Je dis bien « Retour à l'histoire globale ». Et que le premier numéro de cette année, s'appelle « Microanalyse et histoire globale ». Il faut donc concilier les deux. Il y a tout de même toute une histoire intellectuelle qui se pose là, de choix préférentiels des disciplines comme les nôtres qui choisissent de développer une approche, etc., etc. Et puis finalement, ça rebondit plus tard. Pour résumer, sans être trop long, même les apports, les constructions d'Emmanuel dans le cadre de la maison, celle que j'ai que j'ai étudié le plus près, il y a eu d'abord cette série de colloques, une réunion tous les 12, 18 ou 24 mois dans un pays différent, dans une ville différente, sur la crise du capitalisme vue d'un point de vue particulier dans l'espace. Je n'ai pas été à toutes, j'ai assisté à plusieurs. Celle qui m'a le plus marqué, c'était tenue en Inde, à New Delhi, puisque peut-être 80 ou 82, où je m'étais fait accompagner par d'un côté Jean Copan, un américaniste, et de l'autre Étienne Balibar, et ça sera le point de départ du deuxième développement, c'est-à-dire ce séminaire sur les nationalismes qui s'est tenu pendant 2 ou 3 ans, le samedi matin dans le bâtiment du 54, et qui a produit, débouché sur un livre qui reste encore aujourd'hui un livre de référence. Malheureusement, bon, Étienne Balibar ne pouvait pas être là aujourd'hui puisqu'il est aux États-Unis, mais il sera là en juin prochain quand nous nous réunirons pour un véritable colloque à son sujet. Et puis, la troisième direction, ça ne va pas se jouer à la maison, mais ça va se jouer à partir de la maison, c'est le rapport que lui confie la Fondation Gulbenkian sur l'avenir des sciences, sur les dynamiques des sciences sociales, son grand rapport sur les sciences sociales, qui est une œuvre du milieu des années 90, et qui, là, va lui permettre de développer, à un moment, Braudel n'est plus là, son vieux projet, sur bien, il n'y a qu'une science, une seule science sociale, il n'y en a qu'une. On peut les appeler histoire, anthropologie, sociologie, etc. Mais fondamentalement, il y a une unité profonde des sciences sociales. Dans ce sens, Emmanuel va plus loin que d'aller Braudel. Braudel se contentait de ce qu'il croyait beaucoup au dialogue entre les sciences sociales. Et il écrivait que les sciences sociales, toutes les sciences sociales parlent la même langue. C'est-à-dire que en ajoutant une réserve, ou du moins peuvent la parler. Ce qui prouve que dans la réalité, les langues individuelles des différentes disciplines finissent par reprendre une part de leur autonomie. Braudel voyait une entreprise de très longue durée. Il avait lancé dans son article le traduit le plus cité, ce qui ne veut pas dire le plus réellement en profondeur, qui est son article sur la longue durée. Publié en 59 après ça comme un discours programme pour l'institution École des études à ce moment-là, 6e section de l'École des études, après la mort de Lucien Febvre, il en a assuré la succession. Voilà très très brièvement ce ce qui me paraît important, Immanuel, dans un contexte, pas, existe pour lui-même, mais incontestablement, s'est construit quelque chose entre les États-Unis et l'Europe, entre Médias Binghamton et Paris, quelque chose qui a fonctionné à l'échelle mondiale et qui a ouvert tout de même des voies importantes dans la recherche, qui a dominé, je parle pour moi, une part importante de ma vie active. Ceci dit, bien entendu, nous vieillissons tous, nous voyons de voir disparaître Immanuel, mais nous avons vu disparaître successivement André Gaudin-Franck, Giovanni Arrighis, Samir Amin, Hannibal Quirino au Pérou, etc., etc. C'est-à-dire des Wallersteiniens d'origine, le dernier à nous quitter a été Immanuel Wallerstein lui-même.
Merci beaucoup. Merci Maurice. Avant de commencer le débat tout à l'heure, on demandera à Daniel Hugo de travailler, donc comme il a été dit, entre autres sur les archives, d'ajouter éventuellement un complément. Mais là, je voudrais donner la parole à Robert Boyer, donc, qui, vous l'avez peut-être vu, avait publié dans Le Monde du 14 septembre, je ne dirais pas un hommage, puisque ce n'était pas supposé être un hommage, mais on peut dire que une mise en perspective qui a été remarquée, car remarquable.
Écoutez, c'est gentil de m'avoir invité, car vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi de Wallerstein, et du coup, lorsque m'a demandé de dire ça, j'ai eu l'impression d'usurper ce rôle-là. Alors laissez-moi vous décrire comment j'ai interagi avec Wallerstein. C'est une anecdote toute petite. Avec mon collègue Michel Guetta, nous avons fondé une tentative pour ériger comme programme de travail les transformations du capitalisme. Et bien sûr, on retrouvait dès l'origine, non seulement Braudel, mais l'école des annales, et bien sûr, on a rencontré, c'est le même propos de Wallerstein. Et à la fin des années 80, Immanuel Wallerstein nous a inventé Binghamton dans son centre Braudel pour discuter avec nous de nos travaux respectifs. Et le parallèle était la chose suivante. Quels sont les facteurs explicatifs qui, d'un côté, font évoluer le système du monde, de l'autre façon, quels sont les facteurs qui font expliquer qui expliquent les transformation des régimes d'accumulation nationaux. Vous avez quand même qu'il y avait déjà une divergence entre interdépendance et nationalité. J'y reviendrai, je vais conclure sur ce thème. Et les discussions avaient été extrêmement fructueuses. Et alors, du coup, voilà ce qui est légitime. Et du coup, bien sûr, sans compter le fait que, bien sûr, avec le terme de globalisation, tous les disciples de Wallerstein ont occupé un très très grand rôle dans l'analyse de l'économie hétérodoxe. Alors, je voudrais, du coup, maintenant, je quitte l'anecdote pour retrouver pourquoi j'étais vraiment impressionné par Wallerstein. Alors, trois prémices que je continue à partager et que les sciences sociales devraient partager. Deux objectifs, dont certains tombent en déclin, deux regrets et un appel. Un appel, c'est justement le son mortel, et il faut trouver des institutions pour renouveler les grands intellectuels. Le premier, c'est d'abord la construction du temps et de l'espace. Parce que dans la discipline à laquelle j'appartiens, tout est naturel, les phénomènes de marché, tout est déjà constitué. Ce qui est un obstacle intellectuel majeur dans les périodes de grande consommation. Donc, remettre dans le même pot commun l'ensemble des dynamiques, c'est absolument essentiel. Il y a construction. Et les économistes sont d'extrême construction. Donc, montrer une résilience et une aptitude de crise tout à fait remarquable. Deuxième nécessité, c'est la nécessité intellectuelle. Donc il faut que, par exemple, dans la dynamique, il y a société, économie et politique. Alors le parallèle avec les analyses de la régulation est très simple. Les luttes sociales créent des conflits qui passent par l'intermédiation politique, qui se transfèrent dans le droit, qui se transforment dans l'économie. Donc nous sommes exactement dans ce cercle. Il est impossible, c'est pour ça que mes chers collègues isolent l'économie pure, etc. C'est strictement impossible, parce que la logique, c'est exactement ces quatre moments, des quatre disciplines clés. Donc, en quelque sorte, nous pratiquons à ce niveau cette dynamique-là. Le troisième élément, c'est éclairer les enjeux contemporains à la lumière de l'histoire longue. pour beaucoup d'économistes, le long terme, c'est les 5 dernières années. 5 années, c'est rien du tout. Donc, les régulations, avec mon équipe du CEPREMA, on a regardé le capitalisme français depuis la Révolution française. Mais pour comprendre pourquoi en sommes-nous là, et je regrette que nos gouvernants n'aient pas compris, mais pourquoi on a des là? Est-ce que c'est un accident, une faute d'irrationalité? Et ça, c'est très, très important. Réinsérer, parler de l'actualité, en ayant cerné les grands facteurs qui ont produit ce monde tel que nous connaissons. Alors, ce qui, bien sûr, convient dénaturaliser. Deux objectifs que nous partageons, c'est d'abord comprendre les grandes questions. Ce qui m'impressionne beaucoup dans la dynamique contemporaine, c'est des questions de plus en plus étroites, très bien traitées techniquement, mais on a perdu, on a rencontré les eaux de Manou, mais on ne sait pas ce qu'il y en a. La Wallerstein nous montrait, penser, alors ce qui à l'époque me paraît extraordinaire, les systèmes mondes, c'est quand même un enjeu dans les prométhéens, dans la dynamique historique. Donc on ne peut pas imaginer un nouveau sujet. Mais il avait raison que certains intellectuels talentueux se consacrent à cette dynamique-là. Parce que ce n'est pas l'apprentissage difficile et scolaire des diverses disciplines qui vont nous produire cette intelligibilité. Alors, je ne résiste pas à la citation. Vous savez, la reine d'Angleterre est très maligne. Elle a posé à l'économie royale britannique l'idée, mais écoutez, cher économiste, vous qui êtes si doué, comment n'avez-vous pas venu à la crise? Et la réponse alambiquée de la société de la nation, nous avons tous très très bien travaillé. Nous avons obtenu dans chacun de nos domaines des succès absolument considérables. Nous avons été incapables de contrôler la dynamique d'ensemble du système par manque de forum nous permettant de confronter les idées. Alors vous voyez très bien que c'est la reconnaissance que nous avons besoin d'intellectuels comme Wallerstein. Deuxième objectif, ben l'intellectuel, ce n'est pas l'expert qui concerne les corps constitués, les gouvernements, etc. C'est celui qui aide à la compréhension des mouvements sociaux. Avec mon collègue Jacques Mistral, on avait créé un papier, l'économiste ambassadeur des nouvelles régulations. Il ne l'a pas dans sa poche, mais il regarde dans les forces à l'œuvre quelles sont les dynamiques. Il voit très bien que, je dirais vu de loin, les mouvements progressistes manquent beaucoup d'intellectuels organiques, beaucoup sont plutôt pour naturaliser les phénomènes correspondants. Et Brodel nous a montré quand même que et son engagement pour les mouvements compressifs est endogène. Il faut donner des armes intellectuelles pour comprendre ce monde, ce n'est pas simplement la revendication. Et rares sont les intellectuels qui reproduisent. Maintenant, je dirais. Donc vous voyez très bien que dans cet élément-là, une grande aventure intellectuelle commune. Maintenant, laissez-moi vous décrire mon regret. J'ai passé les 25 dernières années à étudier le capitalisme nippon, américain, etc. Et j'ai été accusé de nationalisme méthodologique. Et dans mes derniers travaux, les 10 dernières années, j'ai retrouvé Brodel en agençant la diversité des régimes socio-économiques comme facteur de stabiliser l'économie mondiale. Et j'ai retrouvé quasiment les trois niveaux des disciples de Wallerstein, le duopole Chine-États-Unis, les pays dépendants comme le Japon et qui sont les deuxièmes, et les pauvres pays producteurs de matières premières. Donc on retrouve exactement, par une démarche totalement différente des deux analystes, ce ténor. Donc j'aurais aimé présenter à Emmanuel Wallerstein mon aggiornamento correspondant. Et réciproquement, nous avons une controverse. Pour lui, les Kondratiev existaient. C'était comme une horloge du temps. Et il y avait une discussion passionnante qui s'est engagée. Oui, tous les régimes sont mortels et rentrent en crise. Mais les recompositions ne sont rien mécaniques parce que tout dépend de l'interaction stratégique des acteurs. Et il me semble qu'à la lumière du temps qui sépare les années 70 et aujourd'hui, avec la difficulté d'en faire de régime, les régulationnistes avaient un point. Vous voyez l'aspect l'échange intellectuel. Il me semble que les régulationnistes ont gagné sur la temporalité. Il y a des périodes bien réglées. Et puis, Wallerstein a gagné avec la globalisation qu'on a connue. Je mets entre guillemets globalisation, c'est un terme très mauvais. Mais il a gagné, il a anticipé beaucoup. Maintenant, mon deuxième regret, lorsque j'ai consulté le site de l'Université de Binghamton, on a arrêté la revue, on a arrêté le blog, donc voilà, grosso modo, c'est la fin d'une époque. Du coup, maintenant, mon appel est la suivante. Est-ce que nos systèmes académiques peuvent encore produire des grands intellectuels? Alors, j'ai une grande peur que non. Alors, du coup, j'ai deux propositions. Il faudrait que dans les mécanismes de sélection, on puisse faire des paris sur des gens aussi prometteurs que le furent Brodeck. C'est-à-dire, en gros, c'est pas des techniciens, c'est aléatoire, mais il faut donner une chance. Alors, vous savez que dans les disciplines dures, par exemple, les chimistes atomiques ont réalisé que la survie de leur discipline venait des innovateurs marginaux du système qui fondaient un nouveau paradigme. Et ils ont dit, il faut qu'on nourrisse ces talents. Donc, premier élément, attention à la bibliométrie, les critères automatiques, il faut pouvoir détecter. Deuxième élément, ben, il y avait des géants, des grands intellectuels, maintenant nous devons diviser le travail. Donc, constituer des équipes autour d'un même projet, ce que fait au fond les MSH, et associer les talents, par chance, en comprenant un tout petit peu le langage, pour essayer de reconstituer ça, à l'opposé de l'extrême individualisation des publications. Lorsque nous avons travaillé avec mes collègues sur rattachant l'inflation à une caractéristique monopoliste d'accumulation, nous avons travaillé pendant 3 ans à 8 personnes sans rien publier. Si ceci se reproduisait, nous aurions tous été éjectés du CNRS. Vous voyez le grand problème, attention, nourrir ceux qui pourront penser les grands problèmes de nos jours. On regarde que dans les grandes infrastructures contemporaines, il y a beaucoup d'impasse de conceptualisation du point où nous sommes. C'est à mon avis la grande leçon. Un dernier point qui m'a beaucoup séduit, l'universalisme. C'est-à-dire ce qui est impressionnant, de Brodeck, on commence par l'Afrique, puis aux États-Unis, en Amérique, etc. Et on essaie de se décentrer par rapport au pays d'origine. Et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement, car beaucoup, par exemple, la science économique, c'est un secret de fabrication, elle est américano-centrée. Paradoxalement, elle n'est pas générale, elle ne fait que généraliser ce modèle. Et elle bute sur un obstacle abominable. Le capital chinois ne ressemble pas à l'américain. Et on a là un énorme défi pour les sciences sociales. Je risque un défi. Si les sciences sociales occidentales n'arrivent pas à suivre ce programme-là, ben une science sociale beaucoup plus dynamique risque d'émerger dans les pays asiatiques. Une situation beaucoup plus intégrante, beaucoup plus dynamique des processus. Nos idéaux cartésiens et de rationalité nous jouent des tours. Et c'est un nouvel hommage, si vous voulez. Et pour ça, c'était un grand plaisir pour moi de revisiter les travaux d'Immanuel Wallerstein. Question, semer des Wallerstein et semer des collectifs capables de penser le monde qui se transforme et ses interdépendances. Et ça, c'est une extrême leçon donc, que nous devons incorporer et essayer d'en tirer les conséquences dans les recrutements, dans la construction des institutions, etc. Ça me semble très, très important.
Là, je crois qu'il aurait fallu inviter la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur.
Volontiers, j'aurais dit volontiers.
Parce que
ça fait 50 ans de recherche. Hein,
mais oui.
Ça donne une petite légitimité.
Je dis ça sans la moindre ironie. Vraiment, je dirais, le tour de force, c'est de partir d'un bilan sur un grand chercheur, et de souligner des enjeux qui sont des enjeux épistémologiques qui dépassent les individus.
Exactement. Et actuellement, je rappuie sur les conditions sociales de production des talents.
Voilà. C'est sûr.
C'est ça la question qui est importante. Et je note un grand, dans ma discipline d'origine d'économie, un grand dépérissement. On forme des experts, on ne forme plus d'intellectuels. Donc, heureusement qu'il reste l'histoire, qu'il reste la sociologie, moins normée que ne sont les économistes. C'est bizarre. Donc, vous voyez, je crois qu'ils ont tiré des grands hommes, y compris des conditions d'apparition, pour en tirer des leçons pour le futur.
Merci infiniment. Je vais, en toute modestie, donc, me substituer par défaut à Niloufer Gollum, mais ça m'a paru important parce que donc elle a été avec Michel, avec Étienne Balibar, James Galbraith, John Galtung et Pablo González Casanova, des commentateurs, si j'ose dire, ou des commentatrices, de ces 3 conférences dans une architecture qui avait été voulue comme telle par Emmanuel Wallerstein en disant voilà mes textes et on les soumet à des personnes qui, je ne me rappelle peut-être pas tous les paramètres, mais qui ne viennent pas des mêmes pays, ne sont pas des mêmes disciplines et ne parlent pas la même langue. Donc le résultat c'est ce petit livre et de cela je vais extraire donc quelques idées mises en avant par Niloufer Gollum. Et j'y ajouterai peut-être quelques rapides commentaires. Son texte s'appelle, bon, il faut rappeler quand même que le volume s'appelle « La gauche globale ». Donc le texte de Neuhofer, c'est « Le global et la gauche, des convergences sont-elles possibles ?» Et pour résumer, en gros, on peut articuler son argumentaire sur trois questions. La première, c'est celle du nouvel ère, qu'elle définit en quelque sorte comme étant la fin de l'utopie. Le monde tel qu'on le connaît depuis deux siècles et demi ou un peu plus, c'est celui pour Wallerstein qui est sorti de la Révolution française, qui a été vraiment au centre de la transformation du système monde qu'il décrit. Et deux idées finalement découlent des principes de la Révolution française. La souveraineté du peuple, ça ne surprendra personne, mais aussi la normalité du changement. Et ça, c'est évidemment autre chose. Le problème, suggère Neuhofer, c'est que ces deux points ne sont plus les piliers de la reconstruction de la gauche. La souveraineté du peuple s'appuyait sur le pilier de l'État-nation, qui est un pilier vertical, alors qu'aujourd'hui, les sociétés mondialisées se nourrissent de relations transversales intensifiées. C'est ce qu'on appelle dans le jargon d'aujourd'hui le social d'un côté et le sociétal de l'autre. Alors, on adhère à cette définition ou pas. C'est à voir. Mais en même temps, bien entendu, la question de la souveraineté du peuple pose une autre question, celle de la distinction entre peuple et populisme. Un deuxième point sur lequel le monde change, c'est, et on reviendra dessus, la pensée antisystémique. Et la pensée antisystémique telle qu'elle est perçue aujourd'hui, c'est largement une pensée de scénario catastrophe. Alors, le débat sur le climat, évidemment, y contribue pour beaucoup. Mais la conclusion qui en est tirée, c'est que face à ces inquiétudes à la fois sur l'ordre du monde et sur la Terre elle-même, sur la planète, il y a moins d'utopie au point que la formule de la fin de l'utopie est employée. Donc ça, c'est en quelque sorte les paramètres généraux. Ensuite, il y a deux points qui me paraissent tout à fait significatifs. Le premier, c'est une interrogation sur l'Europe, la gauche laïque et l'islam. Et comme elle le dit, l'avenir de l'Europe risque d'être, c'est une citation, risque d'être très différent de ce qu'avaient imaginé ses fondateurs. Alors, on sait bien, on est aujourd'hui dans l'ère de l'euroscepticisme, on nous rebat les oreilles sur les questions de l'immigration et de l'islam. Et nous dit-elle, cette question, je cite encore, tend à effacer les différences gauche-droite, donc pas seulement sur les politiques économique, mais aussi sur ces questions sociales et sociétales, tend à effacer les différences gauche-droite et à mettre au défi les démocraties pluralistes européennes. D'un côté, on a dans le monde libéral, entre guillemets, la droite qui prétend affirmer traditionnellement le droit des minorités religieuses et la gauche qui est censée plaider pour pluralisme et multiculturalisme. Or, nous dit Neuhofer, ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est le risque ou l'incapacité du multiculturalisme à répondre à la question islamique parce qu'elle est accusée, parce qu'il est accusé, le multiculturalisme, de relativisme culturel. Donc, pour ceux qui s'opposent au multiculturalisme, on a chacun, je pense, des histoires. Moi, j'en ai une sur des groupes que j'ai quittés sur cette question. Les anti-multiculturalistes vont accuser ceux qui s'en prévalent de laisser se former une manière d'enclave potentielle favorable à la radicalisation, voire au terrorisme. Donc ça, on sait bien, si on est un peu ouvert sur un nombre de questions, on est défini comme étant les idiots utiles de l'islamisme. Conclusion, sur ce point, la question religieuse est aujourd'hui pour la gauche un angle mort, nous dit-elle. Un angle mort parce qu'elle a beaucoup de mal à traiter cette question qui est transformée dans la laïcité aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est les laïcards purs et durs qui à ce moment-là risquent de se retrouver avec la captation de la laïcité, du laïcisme par le Rassemblement National et d'autres, ou bien est-ce qu'il y a d'autres marges de manœuvre? Et sur ce point, nous dit-elle, la conclusion d'Emmanuel Wallerstein, c'est, en reprenant la définition très large des libéraux de droite ou de gauche, mais a fortiori de gauche, libéral au sens idéologique, c'est de forcer les libéraux à être libéraux, c'est un objectif de la gauche globale. Le dernier point, je ne veux pas prendre trop de temps, c'est celui des nouvelles formes de protestation publique, qu'on peut définir comme étant une espèce d'extension du domaine de la politique. Donc pour Wallerstein, c'est l'opposition entre l'esprit de Davos et l'esprit de Porto Alegre. Porto Alegre, où il a été un des piliers intellectuels dans la gestation du mouvement. Et donc, quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, par les lunettes, si j'ose dire, de Niloufer, que voit-on? On voit une addition de mouvements qui constitue en quelque sorte, nous dit-elle, un rassemblement international non hiérarchique. La place Tahrir, Occupy Wall Street, les indignés, et évidemment, pour elle, les protestations du parc Gezi à Istanbul, quand une bonne partie de la population d'Istanbul a protesté contre l'idée de la municipalité d'Istanbul de créer un méga centre commercial au cœur du plus grand parc de la ville. Et là, on se retrouve donc avec la question de la place publique et de ce type de revendication. On a encore vu évidemment les exemples Algérie, Liban, l'Iran, ça a été écrasé, vite fait, bien fait, mais les propos étaient les mêmes, où on a en quelque sorte, sur la place publique, une contestation de la légitimité de l'ordre politique, ou de la classe politique, ou politique et au sens le plus étendu du terme. Et en même temps, on y voit, par rapport à ce que peut être l'action politique classique via les partis ou l'action syndicale classique, on voit dans cet imaginaire démocratique qui descend dans la rue, un pont, comme dit-elle, entre les sphères d'action personnelle et les sphères publiques, avec de nouveaux modes de communication, qu'on a pu voir dans de multiples endroits, où il y a d'un côté les activités performatives, il peut y avoir des artistes, tout ce qu'on veut, et puis bien sûr les réseaux sociaux. Le point majeur, me semble-t-il, c'est de savoir quel est l'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est de dire on ne veut plus de Bouteflika et on ne veut plus de tous ceux qui sont autour de Bouteflika? Mais dans certains cas, c'est plus flou. On parle de quête de dignité, on parle de critique du capitalisme, on parle éventuellement de combat écologique, mais on ne sait pas forcément comment les choses ou sur quoi les choses vont déboucher. C'est-à-dire qu'on se retrouve, et je la cite de nouveau, face à la connexion entre la matérialité d'un espace et l'idée de l'espace public. Et cette connexion, c'est primordial pour comprendre le potentiel émancipatoire de ces mouvements dans l'élaboration de la démocratie. La gauche globale doit en tirer parti. La question que je pose là-dessus, c'est est-ce que vraiment on peut espérer cela? La place Tahrir, ça donne le maréchal Sisi. Istanbul, ça donne Erdogan qui durcit sa position. Occupy Wall Street, ça finit par Trump et les indignés. Ça nous donne une situation moins grave, mais quand même complexe en Espagne, où on voit que Vox est devenu la troisième force politique. Donc, Hong Kong, Irak, où il se passe des choses quand même extraordinaires. Le mouvement irakien dans la rue aujourd'hui, ce sont les chiites contre le régime chiite. Donc, il y a beaucoup d'interrogations qui mènent finalement à une interrogation sur ces nouvelles formes de protestation publique. Et là, je voudrais rebondir sur... un long entretien que Bertrand Badi a donné au Monde il y a quelques jours pour la sortie de son nouveau livre sur les transformations des hiérarchies mondiales, où il considère que tous ces mouvements, c'est l'acte 2 de la mondialisation, où l'intersocialité, c'est le concept, est une dynamique majeure qui l'emporte désormais sur le jeu international classique, celui des relations entre États. Alors là, moi, j'ai aussi une question là-dessus, même si j'estime beaucoup Bertrand Badi. Est-ce qu'on peut vraiment dire que les États voient leur puissance disparaître ? Alors, on peut le dire par ce type de mouvement. On peut le dire, bien sûr, sur le plan économique, avec les GAFA. Je regardais ce matin... quand on prend Alphabet, qui est la maison mère de Google, ou quand on prend Amazon, un petit cran au-dessus, leur capitalisation, c'est plus de 800 milliards de dollars. Plus de 800 milliards de dollars, ça veut dire que l'un et l'autre, ils arrivent au 17e rang des États classés par leur produit national brut. C'est-à-dire que leur capitalisation, c'est l'équivalent du PNB de la Suisse ou de l'Arabie Saoudite. Donc là, et on voit bien que quand M. Zuckerberg veut lancer une monnaie à lui, on peut comprendre, bien sûr, qu'on s'interroge sur est-ce que vraiment les États-nations sont en perte de vitesse. Mais quand on réinterroge ce que j'évoquais tout à l'heure, la place Tahrir qui donne Sisi, la façon dont les Chinois vont essayer de se débrouiller avec Hong Kong en ébullition. Il me semble que les États-nations n'ont pas donné leur dernier mot, ni en termes de répression sociopolitique, ni en termes économiques, parce que finalement, et je parle sous le contrôle d'un économiste distingué à ma droite, il me semble qu'aux États-Unis même, on s'interroge sur... on parlait tout à l'heure des oligopoles. Le capitalisme, ce n'est pas le marché régulé, c'est les oligopoles. Et la question sur les oligopoles, en particulier sur les GAFA, laisse une porte ouverte à la reprise en main d'une certaine régulation et par les États et par... un ordre multilatéral dont on voit bien qu'il a beaucoup de mal à se mettre en place. Juste pour terminer très rapidement, l'interrogation porte, ça a déjà été évoqué évidemment au début de cette rencontre, sur la prédiction de la fin du capitalisme. 2008. Maurice parlait tout à l'heure de la crise pétrolière de 73 qui était vue comme c'est la fin d'un monde. La crise de 2008, ça a été vu aussi comme c'est peut-être pas la fin d'un monde, mais ça amène à se poser de sérieuses questions. C'est en 2008 que dans une interview au Monde, Emmanuel annonce que le capitalisme touche à sa fin. Alors évidemment, c'est pas demain après-demain, mais... C'est le grand thème, après tout, le féodalisme est mort, pourquoi le capitalisme ? On retrouve en 2016 à la découverte un livre collectif qui s'appelle « Le capitalisme a-t-il un avenir ?» On retrouve près de Calonne. Dans la gauche globale, page 3, « Le capitalisme est dans une phase terminale ». Alors je sais bien que Porto Alegre... à peu près chaque année, il y a toujours la réunion. Enfin, il me semble que Davos se porte peut-être mieux que Porto Alegre aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette question de la fin du capitalisme est aujourd'hui une question qui est véritablement sur la table. J'étais en train de réfléchir à ces choses-là il y a quelques semaines, et le monde, le quotidien arrive, et il y a le grand pavé bleu qui annonce le dossier « Le capitalisme est-il fini ?» avec 4 ou 5 articles. On pourrait multiplier comme, les choses comme ça. Depuis, et je crois que ce n'est pas tout à fait une anecdote, depuis l'autocritique de Guy Sorman, qui a été pendant très longtemps, évidemment, le chantre du néolibéralisme, mais dont on voit dans un certain nombre de papiers qu'il a pris systématiquement la défense sur la question des immigrés, Sorman qui fait son autocritique, en disant que c'est la spirale de l'inégalité qui nourrit la passion identitaire et qu'il faut devenir post-libéral. Alors si c'est vraiment un pilier des libéraux qui nous dit ça, le verre est dans le fruit ou pas tout à fait. Stiglitz, qui lui dénonce le pseudo-capitalisme, mais qui n'est pas anticapitaliste, mais qui veut, tout en dénonçant la théorie du ruissellement, repenser les choses, c'est la grande fracture, donc son livre de 2015. Aglietta, dont Robert Boyer parlait tout à l'heure, qui entend, c'est son dernier ouvrage, Civiliser le capitalisme, sans parler de l'IRIS, non pas le labo de l'école, mais le think tank de Pascal Boniface, qui organise dans 2 jours un débat, Le capitalisme 2030 sera-t-il responsable, voire philanthropique? En fait, quand on regarde combien la fondation Bill Gates distribue d'argent sur les questions de santé, on s'aperçoit que c'est loin, très loin d'être ridicule, et que leur budget peut quasiment se comparer avec le budget de l'OMS. Donc voilà, et je n'ai pas parlé évidemment de Piketty, et je n'ai pas parlé de Dyatkin, qui a publié un ouvrage dont Pierre Cyrilocker a rendu compte il y a quelques jours, qui est très intéressant, puisqu'il retourne à Adam Smith pour montrer que Smith, qui est présenté comme étant en quelque sorte le premier théoricien du capitalisme, est aussi le premier théoricien des limites du capitalisme. Donc, on pourrait multiplier les choses comme ça, évoquer, puisqu'on est ici, le travail qu'a fait Marc Florbé au Collège d'études mondiales, qui a piloté le manifeste pour le progrès social. Et on voit bien que les questions qui pouvaient sembler perturbante. Est-ce que le capitalisme va disparaître ou bien est-ce qu'il va se reconstruire sous d'autres formes? C'est véritablement aujourd'hui un des grands champs de débat, et c'est un débat qui dépasse, heureusement, je dirais, le champ des économistes. Voilà, je vous remercie. Et si vous le voulez bien, on va demander à Yves David Gaud de dire quelques mots, et puis rappelez-nous ce que vous... Ce qu'a été votre recherche sur le champ de la pensée Wallerstein, on va dire.
Je vous remercie de.
Et après ça, on pourra ouvrir le débat.
La parole, je ne vais pas prendre très longtemps. Donc en fait, moi, j'ai fait ma thèse sur Emmanuel Wallerstein, une thèse de philosophie, de déconstruction et de reconstruction un peu de son parcours intellectuel. Et à ma soutenance, on m'a fait le reproche d'avoir. Procéder à une lecture purement internaliste, essentiellement à travers les textes écrits. Alors ça a un peu piqué mon amour propre. Et je suis allé dans les archives qu'Emmanuel Wallerstein a laissées à Binghamton. Il a laissé à peu près la totalité, je ne sais pas, mais une grande partie de sa vie intellectuelle. Hein. Il y a 125 cartons. Les écrits les plus anciens datent de 1943, donc il a 13 ans, hein, juste jusqu'au milieu des années, jusqu'au milieu des années 2000. Voilà. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est la question de la genèse, de l'analyse des systèmes monde comme projet de recherche. Parce que quand on regarde justement les ouvrages et les articles publiés par Emmanuel Wallerstein, on a toute une période donc, où on a Wallerstein africaniste, donc il écrit donc le Africa, the Politics of Independence, qui a été traduit en français, sa thèse qui porte sur une étude comparée donc, des mouvements nationalistes en Côte de l'Or au Ghana et puis en Côte d'Ivoire, et qui a été publié chez Mouton en 64 et préfacé par Georges Ballandier, qui était un de ses co-directeurs de thèse. Ensuite, on a encore un ouvrage un peu de géopolitique qui n'a pas été traduit, qui s'appelle Africa, the Politics of Unity, où il étudie en fait l'échec du panafricanisme. Et puis, après, il n'y a rien jusqu'en... Enfin, il n'y a rien d'apparemment important de publier jusqu'à 74, le moderne World System. On a l'impression que le moderne World System vient de nulle part. Alors ça c'est important parce que le Modern World System, si on s'intéresse à une généalogie des sciences sociales globales, de la perspective globale, quand on compare l'analyse des systèmes monde et Modern World System qui apparaissent au début des années 70 avec d'autres tentatives, enfin d'autres élaborations qui cherchent à comprendre le changement social dans la longue durée sur de vastes échelles. On a par exemple la sociologie historique de Charles Tilly, Teda Scotchpole, ensuite Michael Mann. On a l'analyse des civilisations de Schumer Eisenstadt et les multiples modernités qui remontent même jusqu'à la période axiale de Jaspers, quoi. Et puis on a l'économie politique internationale, hein, avec Guillotine, Suzanne Strange, enfin tous ces gens. Et là, chez tous ces gens-là, moi, mon avis, c'est que le global, on reste dans des théories internationales, le global est moins explicitement thématisé, moins profondément élaboré que dans l'analyse des systèmes mondes. Et donc je dirais que dans une généalogie des sciences sociales globales, l'analyse des systèmes mondes, c'est vraiment fondateur, donc c'est vraiment une rupture épistémologique. Alors, donc j'ai voulu revenir un peu de voir qu'est-ce qui se passe dans les années 60. Et alors, en fait, dans les années 60, on découvre que Emmanuel Wallerstein, il est reconnu et connu, non pas simplement comme un africaniste, mais déjà comme un méthodologiste et un théoricien. Et ça, c'est quelque chose qu'on découvre, par exemple, dans la correspondance avec Clémence Heller, qui est très très riche. Alors, et c'est là qu'on voit aussi qu'il est en contact avec la sixième section de l'EPHE et la Maison des Sciences de l'Homme. La Maison des Sciences de l'Homme, elle n'apparaît qu'en 62, mais il est en relation avec des gens qui sont liés à la sixième section depuis, en fait, 1956. Il fait la connaissance de Clémence Heller en 1956. C'est Paul Lazarsfeld qui lui dit « Allez voir Clémence Heller ». C'est en 1956 qu'il fait aussi la connaissance de Georges Ballandier. Là, c'est sa première année de thèse. Il est à Oxford et un africaniste anglais qui le chapeaute lui dit « Pour la partie française de votre thèse, il va falloir aller voir Georges Ballandier ». Et donc, dès le début de 1956, il franchit la Manche. Et il fait la connaissance de tous ces gens. Et il a des relations, donc, tout au long des années 60, très régulières, particulièrement avec Clémence Heller. Voilà. Alors, ce qu'on découvre, c'est que dans les années 60, alors, on a. Ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, il y a un texte qui s'appelle. Un article coécrit avec Terence Hopkins. Qui s'intitule « L'étude comparée des sociétés nationales », qui paraît dans la revue que dirigeait Clément de Seller, qui est Information sur les sciences sociales. Et que Clément de Seller avait commandé à Immanuel Wallerstein, à la suite du colloque de sociologie internationale qui s'était tenu à Évian en 1966, pour faire une sorte de synthèse de ce qui s'était dit, des communications qui avaient été faites lors de la séance plénière qui était consacrée au comparatisme en sociologie. Et en fait, ce texte, c'est un peu la partie émergée d'un iceberg. C'est qu'il y a déjà, dans les années 60, avec Terence Hopkins, il élabore déjà une sorte de proto-analyse des systèmes mondes. Il y a déjà un projet d'élaborer une sorte de schéma conceptuel permettant de rendre compte du changement social. Mais alors, on n'est pas dans le cadre d'une théorie globale. C'est quelque chose de très différent. Il s'agit vraiment d'élaborer une science nomothétique du développement et de la modernisation, en vraiment se fondant sur la méthodologie de Paul Lazarsfeld. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'arriver à découvrir, par la comparaison des différentes sociétés nationales, des sortes de lois du développement. Et ça, le cas échéant, en remontant jusqu'au XVIIe siècle, avec l'idée qu'on pourrait, les mêmes causes produisent les mêmes effets, disons, et donc on pourrait, si on comprenait le développement de la France et de l'Angleterre au XVIe et XVIIe siècle, comprendre celui de l'Afrique, des pays africains, des sociétés nationales africaines aujourd'hui. Et alors, on est dans un cadre qui n'est pas du tout global, parce que il y a l'idée d'un système mondial, mais son ontologie, c'est quand même, c'est des sociétés nationales plus ou moins constituées, plus ou moins formées. Mais c'est vraiment, là, pour le coup, on va dire un nationalisme méthodologique. Dans le cadre d'une philosophie d'histoire qui est progressiste, on est dans un contexte de modernisation. Et s'il y a un système de dépendance, il peut freiner cette modernisation, mais pas plus. D'accord ? Et quand on va lire le texte fondateur de 1972, qui s'intitule Capitalist World System, The Rise and Demise of the Capitalist World System. Donc, en 72, une fois qu'il a écrit le Modern World System, il donne une communication au Grand Congrès annuel des sociologues américains et il présente l'analyse des systèmes mondes à ses confrères. Et là, le paysage intellectuel a complètement changé. C'est très étonnant. Il n'est plus du tout question de Paul Lazarsfeld, il n'est plus du tout question de modernisation, il n'est plus du tout question d'une science nomothétique du développement. Les références, là, c'est Lukács, c'est Fernand Braudel, et c'est Paul Amy. Et puis les dépendantistes, André Gunder-Frank et Samir Amin. Alors, on n'a pas l'impression que c'est la même personne. On n'a pas l'impression que c'est la même. On se demande, mais comment c'est la même personne qui a pu écrire ces deux textes, qui évoluent dans des univers théoriques si différents à 5 années de distance, ce qui n'est rien du tout. Donc, on trouve dans le fond des textes non publiés. Par exemple, il devait écrire un livre. S'intituler. Il y avait un projet de livre qu'il annonce à Clément de Seller encore au début des années 1970 qui ne sera pas écrit et c'est le Modern World System qui viendra à la place. La France a manifestement joué, le contexte avec la France a manifestement joué un grand rôle dans cette évolution. Il prend connaissance de l'œuvre de Fernand Braudel en 1965-66. pendant d'ailleurs qu'il est en Afrique. Il va créer à son retour d'Afrique, donc en 65-66, il est en Afrique, c'est là qu'il écrit, en même temps qu'il fait du terrain, donc son livre sur le panafricanisme. Et à son retour à Columbia, il fait un nouveau cours qui s'appelle Modernization. Et en fait, bon, dans les archives, on a les listes, les bibliographies. Par contre, je n'ai pas de notes d'étudiants, je n'ai pas les cours eux-mêmes. Mais on a déjà dans la bibliographie ce qui va être la bibliographie du Modern World System. Et donc, 1967, 1968, 1969, il donne des cours. Et les listes de lecture, c'est les livres dont il va se servir ensuite pour écrire le Modern World System. Donc voilà. Alors après, évidemment, pour savoir quel était le niveau d'élaboration, il faudrait avoir des notes d'étudiants ou des notes de cours. Bon. Par ailleurs, en 1969, à partir de la fin de l'année 1969, il écrit à Clément de Salaire et à Georges Ballandier en disant « J'aimerais bien venir enseigner à la 6e section de l'école pratique des hautes études. » Alors, voilà comment il y a des échanges de lettres avec Clément de Salaire qui sont tout à fait intéressants et aussi qui sont assez amusants parce que Clément de Salaire essaye de le décourager un peu en lui disant « Mais les salaires d'un professeur français n'ont rien à voir avec ceux des professeurs aux États-Unis. » Ne venez pas, vous ne pourrez pas vivre. Alors, voilà comment il insiste, Emmanuel Wallerstein, et voilà comment, là, c'est une lettre donc, qui date donc, du 4 décembre 1969, à savoir qu'il rentre dans l'écriture du Modern World System en septembre 70. D'accord, il a une année sabbatique qui a été accordée par la Fondation Ford, il va à Palo Alto écrire le Modern World System. Et très vite, il enverra à Fernand Braudel des passages, et ça, les drafts du Modern World System, ils sont aussi dans les archives, enfin, il y a les différentes versions. Alors voilà ce qu'il dit à Clément de Salaire, comment il motive son désir de venir en France, donc avant même qu'il ait écrit le Modern World System. « I have long felt that present academic disciplinary structure of the social sciences has been historically anachronistic and intellectually indefensible. I think entirely new lines of division of labor have to be drawn. In such redivision, there would emerge a field centering on the analysis of the development and change of whole societies, incorporating some interests and people now included in sociology, history, economics, political science, and anthropology. » Donc, il y a déjà l'idée de l'analyse des systèmes mondes qui repose sur ce qu'ensuite il a appelé « impenser les sciences sociales ». On revient sur les divisions disciplinaires. Il n'y a qu'une seule, science sociale historique. Some sentiment in favor of such intellectual redefinition is building up in the US, but it is not yet very strong. Et voilà, it bears an extra burden of hostility from an old guard who would, in any event, be resistant to an approach that would involve administrative and organization upheaval. Donc, ce qu'il dit là, c'est qu'à Columbia, personne ne m'aidera à mettre cela en œuvre. Parce que les cloisonnements disciplinaires sont trop forts. Il y a peut-être aussi, ça c'est une hypothèse de ma part, qu'en 68, il a été très engagé auprès des étudiants. Il s'est peut-être fait des ennemis auprès de collègues plus conservateurs. Bon, ça c'est... Et voilà comment il termine sa lettre. « As I look around the world, frankly, it is Paris which I think would provide the friendliest intellectual ambiance for pursuing and developing such an approach, as well as providing me with people from whom I could in fact draw sustenance. Donc il dit c'est à Paris que je donc à Paris à la Maison des Sciences de l'Homme à la sixième section que je trouverai une ambiance intellectuelle favorable à mon projet intellectuel de réélaboration de fond en comble des sciences sociales. Voyez donc c'est un texte quand même très impressionnant. Hein et à cette époque, il ne connaît pas encore Fernand Braudel personnellement. Il l'a lu, mais les premières lettres, elles viennent en fait une fois qu'il a écrit les premiers chapitres du Modern World System. Et il veut les envoyer à quelqu'un, et veut envoyer, donc, comme c'est un sociologue qui écrit un livre d'histoire, il ne se sent pas légitime, et il veut que ce soit vraiment le spécialiste mondial du XVIe siècle qui juge son livre. Et donc là, il en a parlé à Clément de Sélère, ensuite il envoie les premiers chapitres à Fernand Braudel. Au début, on sent bien qu'ils ne se connaissent pas personnellement, parce que Manuel Bernstein est très... Comment dire, le ton n'est pas du tout familier, très déférent. Puis petit à petit, bon, bah, les choses... Quand il voit que Fernand Braudel répond de manière beaucoup plus... de manière très, très, très positive, les choses se détendent. Ils se rencontrent en 72. Hein, et alors, Maurice Aymard, tout à l'heure, ne l'a pas dit, mais Fernand Braudel était même prêt... À faire traduire incessamment l'ouvrage et à le publier en français avant qu'il soit publié en anglais, tellement il était enthousiaste. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bon, je reviens à ce projet. Et avec Ballandier et avec Denis Paulme et. Paul Mercier, donc les africanistes, hein, le groupe des africanistes, ils montent un projet de recherche qu'il envoie donc en juillet 70 hein, à Fernand Braudel, hein, avec un plan de séminaire qu'il a élaboré avec mes collègues africanistes de l'école. Et voilà ce qu'on trouve hein, dans ce petit texte hein, de trois pages. Voilà, Emmanuel Einstein affirme, donc il n'a toujours pas écrit le Modern World System, il serait censé venir comme professeur, comme africaniste, spécialiste, donc des questions géopolitiques, de la géopolitique de l'Afrique. Il parle de la nécessité de créer, je le cite, un cadre d'analyse universelle qui serait en mesure d'englober les expériences du monde entier en vue d'arriver à des explications du processus de la transformation sociale moderne. Qu'est-ce que l'unité d'analyse adéquate pour l'étude des États-nations africains en construction, demande-t-il. Les États-nations africains participent presque tous d'un contexte global et impérial qui limite leurs possibilités d'action autonome. Elles ont des économies enclavées intimement avec une économie transnationale. Comment fonctionne l'influence du système international comme facteur interne de transformation de l'Afrique? En quoi le système international actuel diffère-t-il des systèmes antérieurs? Et pourquoi cela crée-t-il des obstacles plus grands au développement? Donc là, vous voyez, il va commencer au mois de septembre la rédaction du Modern World System. Il y a quelque chose qui est très étonnant dans tous ces textes que j'appelle les textes de la période vraiment intermédiaire, où on a déjà, il y a quelques articles aussi, hein, et communications. Il y a déjà le vocabulaire de la dépendance, du dépendantisme est devenu plus fort. Il y a la conceptualité de Samir Amin et d'André Gunder-Frank. Il parle du développement, du sous-développement. Il parle de la croissance sans développement, mais l'économie monde et surtout ce qui sa typologie hein, célèbre hein, mini système, empire monde, économie monde, ça n'arrive, je trouve ça nulle part avant qu'il ait écrit le Modern World System. Ça, cette sa typologie là, avec où il met finalement dans les systèmes les modes de structuration de ces systèmes de Polanyi, hein, la réciprocité, la redistribution et puis l'échange. Ça ne vient que il y en a pas trace avant ça. Donc là, c'est un travail en cours. Work in progress, hein, si je puis dire,
Merci de votre intervention et on en tire une conclusion qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais vive les thésards. Hein. Parce que là, on voit bien que il faut du long travail de fond pour déterrer un certain nombre de choses qui mettent en lumière finalement vraiment la genèse de ce qui avait été expliqué. Et quand j'entends reparler du titre « Le développement du sous-développement », comme je disais, ça ne rajeunit pas, hein, l'impression d'être chez Maspero.
Place Pingré.
Place Pingré, voilà. Donc un grand merci, et puis je crois qu'on est amené à rester en contact avec vous quand le colloque aura lieu l'année prochaine, et je m'en réjouis. Y a-t-il des questions ? Dans les derniers fidèles, ou bien...
Moi, je note deux grandes questions sur les deux pays. Comment se fait-il qu'on part avec une problématique, on travaille, et un jour, elle est très différente. C'est un mécanisme intellectuel très fondamental.
Oui.
Vraiment, attendez, c'est ça qui est...
Voilà. C'est ça qui est fascinant, et ce mystère...
Ce mystère de la transmutation, etc.
Ah,
et le deuxième, vous avez assisté, le cadre à Colombia, il ne pouvait pas respirer. Donc, vous voyez très bien sur quoi j'ai convaincu. C'est pas une obsession. Attendez, en regardant le contexte, fait largement les voies possibles. Vous voyez très bien. Et là, ça me plaît beaucoup. Vous voyez très bien. Il a fallu trouver un contexte pour développer cet élément.
Pierre Bourdieu, il parle du petit triangle Parsons, Lazarsfeld, Merton. Et en fait, c'est à ça qu'il a voulu échapper.
Exactement. Et vous voyez, un jour, on se retrouve là. Voilà. Et ça, c'est pour l'histoire de la pensée, l'épistémologie, c'est remarquable. Hein. C'est une très, très, très jolie sujet.
Oui.
J'ai une autre question de notre orgue là. J'ai l'impression que vous savez tout sur Wallerstein. Est-ce que vous savez quelque chose sur sa famille ? D'où est-ce qu'il vient ? Où est-ce qu'il est né ?
Alors, c'est un New-Yorkais, mais ça, dans les interviews, il en parle volontiers. Oui, c'est vrai. Il se décrit que vraiment comme un New-Yorkais, et oui, il est né à New York. Oui.
Ça m'a étonné parce qu'il y a un très grand livre d'un Suédois travaillant à la fois à Göteborg et à Londres. Il s'appelle David Simon, qui vient de mettre à jour un bouquin qui s'appelle, aujourd'hui ça doit être 70 penseurs sur le développement. Bon, par hasard je l'ai connu parce qu'on m'a demandé de faire un texte sur Sachs. Et Wallerstein, j'étais très surprise parce que je regardais un tout petit peu les... Et ce même monsieur a fait un autre livre qui porte sur les survivants, peut-être de deuxième génération même, de l'Holocauste, penseurs sur le développement et dans quelle mesure leur passé a influencé la pensée sur le développement. Et on trouve sur la liste de ces gens pratiquement tout le monde hein, qui Polanyi, Stritten, etc. Tous ces gens-là, il a essayé de faire des interviews directes ou indirectes. Je n'arrivais pas à me rappeler si Wallerstein n'est pas dans les Kaysingers, ce qui m'a déjà un tout petit peu étonné, j'avoue, parce que c'est un livre qui a été publié il y a 6 ans, le premier, où il avait droit à 50 auteurs. Par contre, il y a des gens comme Mao Tse-Tung, Yann Kouma, c'est un tout petit peu la Cardozo, il y a des gens comme ça, parce que c'est les penseurs, c'est pas les penseurs et politiciens. C'est pour ça que je vous ai posé la question sur les...
Je crois que les parents d'Immanuel Wallerstein sont venus d'Allemagne, je crois, dans les années 20, avant sa naissance.
C'est pour ça que je me demande si je ne retournerai pas dans les gens qui ont fui l'Allemagne à cette époque-là.
Mais là, c'est bien avant, c'est dans les années 20. Hein,
tout à fait, mais j'ai bien compris.
Bien, avant de clore cela, il y a quelques vers qui nous attendent. Je tiens, même si c'est un peu tard, à remercier les donatrices et les donateurs de l'Association des Amis, parce que c'est grâce à leur contribution et au travail du service éditorial de la maison que l'association a pu publier cette brochure qui n'est pas à vendre, qui est gratuite.
Très jolie.
Et qu'on verra réapparaître sans doute lors du colloque de 2020. Donc, merci à qui de droit.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.